La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est un terme vieux de 30 ans et qui généralement est utilisé en sociologie du travail. Il s'agit de la charge mentale, notion qui désigne deux univers, l'un professionnel et l'autre domestique, qui coexistent et empiètent l'un sur l'autre. Ce sont des tâches, des charges et des contraintes qui s'accumulent et qui envahissent l'esprit. Et depuis quelque temps, les découvertes des neurosciences sont en mesure de donner des clés pour alléger la charge mentale afin de ne pas se laisser submerger. Comment éviter justement la surchauffe cérébrale? C'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Une histoire de gros chats vikings aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, on retrace 2000 ans de l'histoire des chats domestiques à travers leurs os. Une étude danoise et pas mal de surprises de taille, c'est dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati avec Anna Massardier.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Villard sur France Inter.
La charge mentale, celle des femmes mais aussi celle des hommes cet après-midi, donc dans le dossier de l'émission avec mes invités que je salue, la psychiatre Aurélia Schneider, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaud avec nous en duplex de Lyon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho en studio à Paris. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Aurélia Schneider, la charge mentale, est-ce que c'est un motif de consultation aujourd'hui?
J'ai envie de dire pas encore.
Ouais.
Non, par contre, je pense qu'elle est implicite. Chez beaucoup de mes patients, moi je suis comportementaliste, donc je vois des anxieux, beaucoup d'anxieux, beaucoup de gens qui sont en surcharge parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'ils aiment tout contrôler. Et j'ai envie de dire que quand la notion s'est un petit peu généralisée, là, il y a à peu près une année, j'ai vraiment repéré cette chose-là qui est en fait implicite dans nos vies.
Jean-Philippe Lachaud, justement, est-ce qu'on repère le cerveau en surchauffe? Est-ce que ça se voit concrètement?
Alors, est-ce que ça se voit certainement en IRM fonctionnel, par exemple? J'imagine qu'on verrait beaucoup plus d'activité métabolique, surtout dans les régions dont on reparlera tout à l'heure, qui sont les régions frontales, qui sont en charge de contrôler nos différentes actions et pensées.
Sébastien Boller, dans ce dossier de Cerveau Psycho, il y a de quoi soulager justement cette charge mentale. Vous donnez plein de conseils et des clés.
On essaye effectivement de localiser d'une part d'où viennent les problèmes, parce que tout le monde n'est pas touché de la même façon. Et comment essayer de faire le tri aussi entre tous ces aspects de nos vies qui se télescopent de plus en plus. Avoir des réflexes, effectivement, une sorte d'hygiène mentale pour regrouper les tâches en grands blocs, par exemple, ou pour éviter de se mettre inutilement la pression, parce que c'est aussi un élément qui compte beaucoup. Ouais.
Allez, on se retrouve tous dans un instant donc pour en parler, pour répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Et Axel, la une de la science aujourd'hui s'intéresse aux chats domestiques des vikings de l'âge de bronze.
Oui Mathieu, tous les grands peuples navigateurs le savaient, les chats sont indispensables à bord des bateaux sous peine de voir ses cordages et ses réserves de nourriture disparaître rapidement à cause des rongeurs.
Oui, on imagine assez mal quand même un viking câliner un petit chat minou quand même, non?
Ah, il les caressait bien, là, peut-être, hein, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, mais ce qu'on sait c'est qu'il les écorchait. Et oui. Une fois mort, je vous rassure, pour récupérer leur fourrure. Et c'est grâce à cette pratique que les chercheurs danois ont pu avoir accès à des ossements de chats par centaines. Ils retracent dans une étude 2000 ans de l'histoire des chats domestiques au Danemark. Et pour commenter cette étude, nous sommes au téléphone avec Jean-Denis Vigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de la domestication. Alors, on observe avec cette étude, et c'est le résultat principal, hein, que les chats domestiques ont beaucoup grandi depuis l'âge de bronze. En quoi est-ce que c'est une surprise?
Alors, c'est un résultat complètement nouveau, donc c'est nécessairement une surprise. Cela étant dit, l'augmentation de la taille de beaucoup d'animaux domestiques au cours des deux derniers millénaires est quelque chose d'assez fréquent en Europe. Et là, en l'occurrence, ben, ça porte sur le chat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Et du coup, les auteurs s'interrogent sur les causes de cette augmentation de taille.
Mais pourquoi la domestication en elle-même sur les espèces modifie la taille rétrécie ou agrandit les animaux?
Alors, Alors, la domestication au tout début, hein, quelle que soit l'espèce de vertébré, provoque une diminution de taille assez rapide. Alors, pourquoi ? Ben, il y a sans doute des causes liées à l'alimentation, hein, qui, évidemment, est moins diversifiée et parfois moins abondante lorsque l'animal est élevé par des éleveurs qui sont encore un peu des apprentis que lorsqu'il est libre de choisir sa nourriture dans la nature. La taille, c'est un caractère qui évolue, qui fluctue rapidement au sein des espèces. Il suffit de regarder comment la taille de l'homme en Occident a augmenté durant les 2 ou 3 dernières générations. C'est un caractère qui évolue très vite et qui est quand même en grande partie contrôlé par des facteurs environnementaux et par, bien sûr, l'abondance de la nourriture.
Alors, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cette histoire de chat viking ? C'est cette augmentation sur 2000 ans ou l'augmentation en général des chats domestiques ?
Déjà une augmentation sur 2000 ans et au Danemark, enfin dans cette ère scandinave, pour ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment mis en évidence de manière aussi forte et aussi claire. L'augmentation de la taille du chat, à ma connaissance, à l'échelle de l'Europe, on ne l'avait pas non plus véritablement mis en évidence, si ce n'est pour les 2 ou 3 derniers siècles où ce qu'on appelle les raciations, hein, c'est-à-dire la sélection de races répondant à des canons de beauté ou d'utilité, a pu provoquer, dans certains cas, l'augmentation de la taille des lignées.
Alors, ils faisaient quelle taille exactement, a priori, ces chats, Jean-Denis Vigne ?
Ah ben, au début, c'était des petits minous, ouais. D'une taille modeste, et puis, à la fin, ils avaient à peu près la taille de nos chats de gouttière actuels. Hein. C'est pas gigantesque. Hein. En tout cas, c'est toujours plus petit que la taille du chat sauvage d'Europe, hein, le chat forestier, qui n'est pas l'ancêtre direct, c'est le cousin de l'ancêtre du chat domestique, mais c'est un très gros chat, hein, le chat sauvage européen, qui se différencie bien clairement de tous ces chats domestiques, même les plus grands, les plus récents.
Alors, si on regarde l'histoire de l'Europe depuis 2000 ans, Jean-Denis Vigne, est-ce qu'on peut imaginer une raison à cette augmentation de taille ?
Alors, les auteurs, dans la discussion de leur article, proposent plusieurs raisons qui sont toutes vraisemblables, plausibles, et qui sont plus ou moins toutes liées au fait que les chats auraient eu plus à manger dans ces périodes, disons, entre la période viking et le XVIIIe siècle. Puis après, ils expliquent l'augmentation finale de taille, hein, 18e, 20e, par ces raciations que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour le Moyen-Âge, ils parlent beaucoup de plus d'alimentation, plus de déchets de l'activité humaine. Ils n'évoquent pas une hypothèse qui, moi, me paraît devoir être prise en considération, c'est la prolifération des rats. Et de rats d'une taille relativement modeste, puisqu'il ne s'agit pas du rat d'égout, hein, des grands rats sur mulots qu'on a aujourd'hui dans nos villes ou dans le métro parisien, mais de rats noirs qui sont un peu plus petits et qui sont des proies tout à fait désignées pour les chats. Alors, il se trouve que le rat est un animal qui n'est pas autochtone en Europe, le rat noir. Il a commencé à être présent ici et là, mais en quantité relativement faible pendant le premier millénaire de notre ère. Et à partir de l'an 1000 à peu près, on observe d'une part une densification très forte des rats dans tous les milieux ruraux, urbains, etc. Donc une abondance de nourriture potentielle pour les chats. Et puis une légère diminution de taille de ces rats, donc qui les rendent encore plus accessibles pour les chats. Et moi, j'aurais bien aimé que les auteurs discutent de cette hypothèse qui, moi, me semble intéressante, même si je n'ai pas de preuves, bien sûr, pour affirmer que c'est là la cause de cette augmentation de taille des chats liée à une augmentation de leur nourriture.
Mais ça permet de rappeler, Jean-Denis Vigne, quand même que la domestication des chats par l'homme est vraiment liée à la présence des rongeurs. En tout cas, c'est le seul point qu'on peut mettre en avant.
Oui, effectivement, on a maintenant bien décortiqué 3 régions dans le monde où le chat a été domestiqué, hein, le Proche-Orient, le Levant, aux alentours de il y a une dizaine de milliers d'années, puis l'Égypte aux alentours du 6e, 5e millénaire. Et puis, à peu près en même temps, la Chine à partir d'une lignée de chats différente. Et dans ces 3 cas, c'est le même scénario. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que l'agriculture prend son essor, les stocks de céréales ou les déchets de l'agriculture s'accumulent dans les villages. Ça attire des rongeurs qu'on appelle commensaux, c'est-à-dire qui viennent se nourrir à la table de l'homme, souris, rats. Et évidemment, les petits carnivores qui les mangent, le chat en premier lieu, pénètre dans les villages. Donc d'une certaine manière, c'est les chats qui se sont rapprochés de l'homme, et puis ensuite, évidemment, le renforcement de cette relation nous a amené à la domestication dont on a les témoins dans nos appartements aujourd'hui.
Très rapidement, pour terminer, l'autre résultat de l'étude, c'est que les os marquaient des traces de dépeçage. Ça veut dire que les Vikings aimaient la fourrure de chat, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les auteurs s'appuient sur deux très grosses accumulations d'ossements de chat qui correspondent à des sites de traitement de la fourrure. Alors ça, c'est intéressant, c'est original. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de la fourrure en Europe centrale et en Europe du Nord pendant tout le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge. C'est bien connu des historiens, mais là, on a la preuve qu'il y avait de véritables élevages de chats pour produire des fourrures, et ils ont utilisé deux gros sites archéologiques avec des accumulations considérables d'os de chat dont on voit très bien avec les traces que les os portent, les traces de découpe que les os portent, qu'ils ont été utilisés pour produire de la fourrure.
Merci Jean-Denis Vigne pour toutes ces précisions, vous qui êtes archéozoologue, merci beaucoup. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la part de gènes dans l'acné. Une large étude menée sur 27 000 personnes s'est intéressée aux déterminants de la poussée de boutons qui survient à l'adolescence et pour laquelle nous ne sommes pas tous égaux. Les chercheurs montrent que de très nombreux gènes impliqués dans la genèse des poils sont aussi en cause dans les cas sévères d'acné. Les choses se jouent donc dans la peau, mais également autour des follicules pileux, une piste tout à fait nouvelle pour les traitements qui stagnent depuis des années pour cette pathologie. Au Crétacé, les anciens oiseaux avaient deux plumes détachables en cas d'urgence. Ces deux très longues plumes visibles sur de nombreux fossiles à l'arrière du corps intriguaient les chercheurs depuis un moment, et justement un morceau de ces plumes queues vient d'être découvert, parfaitement conservé dans l'ambre, et l'étude approfondie de leur structure montre qu'elles sont parfaitement différentes des plumes actuelles, plus légères, plus rigides mais aussi plus cassantes. Les chercheurs imaginent qu'elles étaient un appât pour les prédateurs, un peu comme la queue de certains lézards. Et puis, cher Père Noël, pour terminer, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. Sache que selon un psychologue anglais de l'université de Leicester, qui a questionné de très nombreux enfants dans le monde, c'est à partir de 8 ans en moyenne que nos chères têtes blondes ne voient plus ta magie. L'étude en cours de rédaction, appelée la Santa Survey, a reçu la réponse de 1200 enfants. Rassure-toi comme tu peux avec ce dernier chiffre, puisque seulement 34% de ceux qui voient encore ta magie ont essayé d'être plus sages pour avoir plus de cadeaux. La charge mentale dans un instant, dossier de la tête au carré.
You can't hide.
C'était Léonie Pernet avec Butterfly à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Je m'appelle Amy Mitchell et je suis une mère. Et depuis, j'arrête pas de courir. Mes journées sont bien remplies. Je dépose les enfants à l'école.
Bisous.
Ensuite, je cours au travail où je vais de rendez-vous en rendez-vous. Généralement, j'avale un truc dégueu en speed à mon bureau. Assez souvent, je cours à l'école pour voir les enfants réciter des poèmes, jouer dans des pièces ou présenter des exposés, où je suis généralement en retard. Je cours aussi aux réunions de parents d'élèves, aux réunions parents-profs et aux galas de charité. Au moins une fois par jour, j'ai l'impression d'être une mère indigne, alors je pleure dans ma voiture. Ensuite, je conduis les enfants à leur cours de piano, leur entraînement de foot, à la danse ou chez le médecin, et je finis faire les courses. Mais j'adore quand même être une maman.
Voilà, extrait du film Bad Mom, sorti en 2016, pour parler de la charge mentale cet après-midi. Dossier de la tête au carré avec nos amis de Cerveau et Psycho, qui font la une justement de ce thème dans leur dossier actuellement dans les kiosques, pour évoquer donc ensemble et comprendre cette notion qui exprime la surchauffe cérébrale au quotidien. Aurélia Schneider, vous êtes médecin psychiatre spécialisée en psychothérapie comportementale et cognitive, et vous publiez donc la charge mentale des femmes et aussi celle des hommes, mieux la détecter pour prévenir le burn-out, c'est aux éditions Larousse. Jean-Philippe Lachaud, en duplex des studios de Radio France à Lyon, neurobiologiste, directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et Sébastien Boller, donc rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec les messages qui arrivent, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la charge mentale? On en donne la définition pour ceux qui ne connaissent pas ça.
La charge mentale,
Aurélia,
c'est le...
Schneider, ouais.
Oui, pardon. C'est le fait de se retrouver à gérer des choses qui ne sont pas dans le domaine où on se trouve. C'est-à-dire, vous êtes physiquement quelque part, occupé, et vous avez quelque chose qui surgit et qui vous demande de vous y intéresser, et ça se passe ailleurs. C'est la superposition, en fait, de charges dans des lieux différents. La définition de départ, c'est comme ça.
Ouais, au départ, c'est un terme de sociologie, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'était décrit en 84, à peu près, par une sociologue, Monique Eco, qui avait étudier les femmes de plutôt de milieux ouvriers qui travaillaient, qui commençaient de travailler comme ouvrières et qui en même temps étaient toujours chargées de la maison, et qui s'étaient aperçues qu'en fait elles étaient obligées de négliger une partie des charges de la maison, puisque elles allaient au travail et qu'en fait elles étaient obligées de laisser en plan un certain nombre de choses.
Sébastien Boller.
Tout en étant contaminées sur le lieu de leur travail par des pensées liées aux tâches ménagères ou familiales qui faisaient que ça réduisait aussi leur efficacité ou leur épanouissement professionnel et vice-versa. Donc c'est la contamination croisée de ces sphères-là.
Elle insiste bien sur le fait que c'était pas successivement la double journée, ce qu'on pense tous, en fait, au départ.
Mais c'est l'empilement,
Mais c'est l'empilement, c'est vraiment la simultanéité.
D'ailleurs,
penser à un domaine quand on est dans un autre domaine.
C'est peut-être d'ailleurs une des clés pour essayer d'alléger la charge mentale, c'est d'arriver à faire les choses successivement, à se dire pendant un moment, je pense pas au reste.
Exactement.
Jean-Philippe Lachaud, un petit complément de définition pour vous?
Oui, enfin, j'aurais tendance à dire que c'est proprement humain, c'est-à-dire que c'est un petit cadeau qui vient avec le fait d'être humain et d'avoir cette capacité de pouvoir s'envisager non seulement dans l'instant présent, dans le contexte présent, mais également dans le futur, c'est-à-dire d'anticiper les conséquences de ses actions à long terme. Ça, c'est un petit cadeau qui vient avec le développement du cortex préfrontal et qui nous a été bien utile, mais qui aussi comme un petit poison, puisque je dois aussi penser à tout ce que j'oublie de faire, éventuellement.
Oui. Qui est Elsa, s'il vous plaît, Jean-Philippe Lachaud?
Alors Elsa est ma fille, et c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que dans l'article de Cerveau et Psycho, effectivement, le jour de ses 7 ans, elle est effectivement venue toquer à la porte, je crois qu'il devait être 5 heures, pour me rappeler qu'il fallait pas oublier le chèque du Téléthon. Et donc effectivement, elle était plus dans cet instant dans lequel on voit souvent les enfants complètement dans leur bulle, mais elle commençait à se préoccuper aussi de l'avenir.
Donc elle a fait son entrée officielle dans l'âge de raison.
Exactement.
Ouais. Et ça vous a surpris finalement cette réaction?
Ça m'a surpris que ce soit le jour de ses 7 ans particulièrement, mais je pense que c'est un peu un hasard quand même.
Ouais. Alors cette notion, vous le disiez tout à l'heure, Aurélia Schneider, elle a été vraiment popularisée il y a maintenant un an, grâce à une bande dessinée et une jeune femme, Emma, qui a dessiné justement autour de ce thème.
De ce thème, finalement, il faut demander parce que si tu me demandes pas, moi je peux pas faire pour toi et toi tu es surchargée en fait. Donc elle en a fait maintenant des bandes dessinées qui s'appellent Un autre regard, mais initialement c'est comme ça que c'est parti et ça a remis la charge mentale finalement dans le milieu domestique complètement. Alors que sociologiquement parlant, c'était comme on le disait tout à l'heure, le chevauchement.
Oui, tout à fait. Ça joue un rôle important dans la mise à l'honneur de ce sujet, c'est clair.
Et beaucoup de personnes se sont reconnues, effectivement, dans cette notion.
Oui, et puis, moi, en tout cas, je la remercie pour ça, parce que ça m'a amené à me questionner sur, finalement, est-ce que c'était pas en embuscade dans ma consultation, ce concept-là, et ce que dit Monsieur Lachaud, c'est ça aussi. C'est en fait le cadeau de notre façon de fonctionner dans le monde, de nous inscrire dans la vie, dans les projets, en même temps dans tout ce qu'on doit faire au quotidien.
Marjorie nous dit, j'ai remarqué que nous les femmes étions bien plus souvent touchées par ces problèmes de surcharge mentale et je me demande si le problème ne vient pas essentiellement d'une injonction à la perfection qui vient de la société, mais surtout et peut-être surtout de nous-mêmes. On doit être parfaite physiquement, au travail, dans les tâches ménagères, avec les enfants et avec notre chérie au minimum. J'ai l'impression que les hommes, dit-elle, acceptent plus facilement de laisser tomber ce qui n'est pas prioritaire. Mmh. Sébastien Moller. D'abord, c'est vraiment un dossier qui s'adresse aux deux sexes, aussi.
Oui, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont amenés à prendre en charge à la fois les aspects éducatifs, ménagers et professionnels.
Mais quand même, donc, les femmes en très grande majorité.
Oui, en grande majorité. Ouais. Les derniers sondages, c'est à peu près 70% quand même des tâches ménagères et près de 80% des tâches d'éducation qui sont prises en charge par les femmes. Donc ça c'est un problème essentiellement féminin aujourd'hui. Et ce que dit notre auditrice, c'est assez vrai. C'est-à-dire que ça vient en partie d'une injonction. D'une injonction sociale, mais aussi familiale, parce que ça commence dans l'enfance. Je la suivrai pas forcément quand elle dit ça vient de nous-mêmes, parce que je pense pas quelque chose d'essentiellement féminin dans le fait d'être surchargé mentalement. Je pense que c'est vraiment historique et social, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes ont beaucoup plus historiquement été soumises à des stéréotypes de genre, des rôles sociaux qu'il fallait accepter, qu'il fallait endosser. Au départ dans la sphère privée et familiale, et puis quand les femmes ont commencé à travailler, il était hors de question de dire je laisse tomber complètement tout ce qui était de leur attribution traditionnelle. Donc elles se retrouvaient effectivement avec les deux aspects à gérer, et avec le mythe de la femme accomplie, la Wonder Woman qui arrivait là-dessus, qui a été comme une espèce d'objectif un peu fantasmé, un peu peut-être imposé aussi aux femmes par les hommes qui eux ne subissaient pas la même pression, et qui aboutit au fait que les femmes effectivement sont plus touchés par les problèmes liés au perfectionnisme, ce qui est un vrai problème de psychologie, un motif de consultation chez les psychothérapeutes, et avec cette difficulté effectivement à lâcher prise, parce que c'est depuis tout petit, souvent, on le voit très bien dans l'éducation des enfants, elles ont été habituées à devoir faire comme il fallait, de façon parfois docile, en tout cas en se pliant à certains rôles, en étant dans le contrôle de soi beaucoup plus que les garçons, qu'on laisse faire beaucoup plus ce qu'ils veulent. Et à l'arrivée, ça donne effectivement des hommes qui lâchent prise plus facilement, je crois. Oui.
Aurélia Schneider, c'est ce que vous observez des femmes, des mères de famille aussi, beaucoup?
Oui, alors, moi, ma consultation est assez remplie de femmes, en fait, puisque les femmes consultent plus souvent que les hommes, ça c'est sûr, elles expriment davantage leurs émotions, donc on les voit davantage. Mais je crois, par rapport au perfectionnisme, c'est qu'ils ne placent pas, les hommes et les femmes, le perfectionnisme au même endroit. C'est-à-dire que les femmes sont extrêmement perfectionnistes sur leur maison, elles ont envie que ce soit rutilant, que ce soit bien. C'est fort chez elles l'envie qu'on leur dise que leur maison est rangée, agréable, qu'elle crée un lieu de vie agréable. Les hommes n'ont pas la même façon de voir les choses. Si on regarde les plaintes des hommes dans même au niveau d'un trouble anxieux, ce sont pas les plaintes sur, par exemple, la même gestion du temps. Un homme dira rarement « Oh là là, j'ai le temps de rien, j'y arrive pas, je suis complètement débordé ». Ils n'ont pas cette même façon d'exprimer le débordement. Et je pense que le perfectionnisme n'est pas au même endroit. Et c'est vrai que les femmes sont là-dessus assez prisonnières d'une envie de bien faire, quand même, beaucoup. Et c'est un vrai problème, d'ailleurs, parce que envie de bien faire, envie de tout contrôler, envie que les choses soient comme elles aiment. Alors, bien sûr, c'est une satisfaction, mais à quel prix ?
Sébastien Moller, qui fait quoi à la maison? Il y a un petit tableau justement dans Cerveau et Psycho pour voir l'évolution des occupations quotidiennes. Alors c'était des chiffres de 2010 sur des Français âgés de 15 à 60 ans. Et alors là, on voit vraiment la répartition et la différence de temps consacré à différentes tâches. Sur le temps domestique par exemple, en 2010, c'est 4h01 pour les femmes et 2h13 pour les hommes. Pour le ménage et les courses, c'est 3h pour les femmes et 1h17 seulement pour les hommes. Donc là, les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes.
Oui. Et ça bouge pas énormément.
Oui, et le temps de repos, moi j'avais lu le rapport de l'INSEE sur le temps de repos, le temps off, il y avait toujours une demi-heure de plus pour les hommes que pour les femmes, en temps de repos quotidien.
Et c'est l'antichambre du burn-out, comme vous le disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, j'appelle ça l'antichambre du burn-out.
Cette charge mentale dont on parle cet après-midi. Vos messages arrivent, franceinter.fr, et puis on se retrouve dans un instant. On parlera bien sûr de notre cerveau avec Jean-Philippe Lachaud.
Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament, oui, j'avais oublié que tu m'aimais. J'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié.
J'avais oublié que tu m'aimais tant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et avec nos invités Jean-Philippe Lachaud, donc à Lyon, neurobiologiste, Sébastien Boller pour le magazine Cerveau et Psycho, et Aurélia Schneider pour ce livre chez Larousse. Vous êtes psychiatre, la charge mentale des femmes et celle des hommes. Jean-Philippe Lachaud, parlons quand même de l'attention, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit autour de la charge mentale. Il y a une dispersion très forte de notre attention, cette difficulté à se concentrer sur les choses.
Oui, effectivement, et elle va être accentuée par la charge mentale, parce que l'état favorable à l'attention, c'est la concentration, donc c'est d'être complètement dans ce qu'on fait, dans la tâche du moment. Mmh. Or, justement, la charge mentale va faire que, tout d'un coup, vont émerger des petites pensées, ah, il faut surtout pas que j'oublie de faire ça, et ceci, et cela aussi. Donc, le fait de rester sur la tâche en cours va devenir une sorte d'erreur, en fait, par rapport à tous ces objectifs qu'on a à mener de front. Et donc, l'attention va se disperser. Elle va se disperser pour commencer à se diriger vers ses autres objectifs. On va commencer, déjà, on va réactiver ses souvenirs. Ah oui, j'ai ça à faire, faut surtout pas que je l'oublie. Mmh. Donc, régulièrement, on va se le remémorer. Et puis aussi, on va commencer à réfléchir à la manière de mener, de pas oublier cela, la manière dont on va s'y prendre. Donc, l'attention va littéralement exploser.
Jean-Philippe Lachaud, Catherine nous écrit, elle nous dit ceci, alléger sa charge mentale, c'est bien souvent aussi savoir se déconnecter de son insupportable, en deux mots, jeu de mots pour parler de nos outils qui nous accaparent énormément quand même.
Oui, alors, cela dit, il y a moyen d'utiliser son téléphone portable justement pour alléger la charge mentale, par exemple en se fixant des rappels. Pour justement ne pas avoir à constamment tout mémoriser, on se donne des petits rappels, à telle heure, je sais que mon téléphone va me rappeler de faire ceci, j'ai pas à m'en souvenir. Mais évidemment, le portable, en fait, on parlait tout à l'heure de contexte, de pas être dans le contexte présent, que la charge mentale est liée à un contexte plus étendu. Le téléphone portable, dans notre poche, nous amène justement, nous met en contact avec ce contexte extrêmement large, tous les gens qu'on connaît, toutes ces choses à faire, et nous bombarde d'alertes, de choses auxquelles il faut réagir.
Aurélie Schneider, vous préconisez à vos patients l'utilisation du portable pour nous alléger de la charge mentale ?
Écoutez, moi je sais pas, je pense que le portable c'est à double tranchant. Mmh. Et je pense que c'est très utile de pouvoir joindre en urgence quelqu'un. On est tellement content de pas chercher une bonne vieille cabine téléphonique qu'on trouve pas ou qu'on trouve cassée. Donc formidable portable pour ça, pour l'urgence, je pense. Mais néanmoins, selon moi, rien ne vaut un bon planning dans un endroit unique. Parce que le gros problème, c'est la dispersion aussi. Quand on en note de tous les côtés, on se perd. Et puis, je pense également que quand on fait ce qu'on appelle les fameuses to-do list, c'est-à-dire on peut se décharger sa mémoire sur ces to-do list, pourquoi pas, mais à condition d'avoir quelques items seulement, parce que si on déborde sur sa to-do list, on ne va jamais arriver à tout faire, et on va se culpabiliser de ne pas arriver à tout faire.
Donc c'est la liste angoissante, là, pour
oui,
le coup.
Oui, ça devient la liste angoissante, donc je pense qu'il faut la manier avec parcimonie, mais que c'est néanmoins très utile, tout comme un bon agenda... dans un endroit unique.
Sébastien Boller.
Oui, alors les to-do lists, effectivement, ça a même été étudié récemment dans le cadre des insomnies. Puisque l'insomnie, en fait, c'est une sorte de charge mentale qui répond à la définition que vous donniez, c'est-à-dire que quand on est étendu dans son lit, qu'on n'arrive pas à dormir, je ne sais pas si vous avez remarqué, on essaye de faire toutes les tâches qui se rapportent absolument pas au lieu où nous sommes, dans notre chambre, mais qu'on imagine pouvoir régler par la pensée en un autre lieu. Et là, des chercheurs récemment ont pu montrer que le fait de se lever 10 minutes pour noter tout ce à quoi on pense pour le lendemain permet de s'endormir beaucoup plus vite. Donc, et oui, effectivement, c'est pas des to-do list fleuves qu'il s'agit de faire. Mais le téléphone portable et les outils de télécommunication numérique, effectivement, empêchent de rentrer dans le temps long de la concentration dont parlait Jean-Philippe Lachaud. Et de ce point de vue-là, c'est un véritable piège, à mon sens, qui empêche de créer un fil de tâches successives. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment voir quelles sont vos priorités dans une journée, vous verrez que vous n'en avez pas 10 ou 20. Ce qui est vraiment important, ça se compte sur les doigts d'une main. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en place des temps longs de une heure pour faire ceci, une demi-heure pour faire cela. Et à la fin, vous y arrivez. Le problème, c'est que le flux d'informations aujourd'hui est tel, avec tous ces outils de communication numérique, que on est submergé de vingtaines, de trentaines d'informations, parmi lesquelles on perd un petit peu le sens de la priorité.
Ouais. Sauf qu'il y a effectivement des informations, Sébastien, qui se multiplient, mais il y a aussi le fait d'avoir des enfants. Et quand on est seul, par exemple, à les élever, c'est le cas de Anne qui nous écrit, seule avec trois filles à 100% et un boulot à plein temps, j'ai besoin de cinq cerveaux. Et quand je n'en peux plus physiquement et psychologiquement, je n'ai comme solution que l'arrêt maladie pour reposer ma tête et mon corps. Vers qui se tourner pour aller mieux? Voilà un exemple très concret. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, sur les personnes seules.
Oui, oui, oui. Enfin, je pense qu'une des catégories les plus à risque, ce sont les personnes seules avec enfants. Puisque, par définition, l'arrivée des enfants, c'est de multiples choses à gérer. Et ce que j'ai envie de dire, ça fait irruption dans notre vie. C'est-à-dire que fait irruption dans notre travail, brutalement, une alerte sur le fait que la babysitter est malade et qu'elle pourra pas aller chercher le gamin. Toutes ces choses qui sont ce que j'appelle aussi des pop-up. C'est-à-dire, on est dans une activité à long terme et brutalement, on est dérangé par quelque chose qui fait comme ça, écran, qui nous oblige à nous concentrer autrement et qui est un facteur de déconcentration terrible, ce qui fait qu'après on remet du temps pour se remettre dans la tâche précédente.
On va écouter justement Emma, dont on parlait tout à l'heure, cette dessinatrice qui a eu un énorme succès l'année dernière avec sa bande dessinée sur la charge mentale. Elle s'exprimait en janvier, là, il y a quelques semaines à peine, au micro de Tout le monde en parle, mais version québécoise.
J'ai changé de boulot au moment où je suis tombée enceinte, donc je courais partout et je me suis retrouvée responsable de ce rôle à la maison. J'ai eu l'impression que c'était un peu ma tâche et puis même si moi j'essayais de m'en débarrasser, tout le monde me rappelait que c'était moi qui devais le faire. Donc la nounou, elle voulait parler qu'à moi. Les fascicules, la lecture qu'on donne, on la donne à la mère en fait, on la donne pas au père. Et du coup, je devais gérer ça et en plus essayer de faire sur le temps qui restait, me consacrer à mon boulot. Je pouvais pas trop rester tard pour finir ce que j'avais à faire. Et puis pendant ce temps-là, mes collègues hommes, eux, ils avaient leurs femmes qui s'occupaient de leurs petits. Eux, ils pouvaient sortir le soir, ils faisaient du réseau. Ils sortaient boire des coups, du coup ils discutaient, ils s'échangeaient des projets et tout. Et moi je faisais pas ça parce que je devais rentrer récupérer mon fils. C'est vrai que moi je me disais je comprends pas, je suis crevée alors qu'on fait autant l'un que l'autre. Mais c'est parce que moi j'étais tout le temps en train de penser, ah oui il y a le rendez-vous chez le médecin, il y a ça à préparer pour l'école, il y a telle activité à anticiper, les lessives, les courses, etc. Et en fait j'étais tout le temps fatiguée, pas de faire mais de planifier.
Voilà, Emma, excellent résumé hein, finalement de notre discussion du sujet. Sébastien, tout est là, condensé en quelques mots.
Oui, résumé d'une situation où les femmes doivent faire beaucoup plus. Et c'est insensé parce qu'en fait déjà, à deux, en se répartissant bien les tâches, c'est difficile. Moi je pense qu'un être humain, être obligé de gérer sa subsistance alimentaire, les activités intellectuelles, l'éducation d'un enfant et la gestion d'une maison, c'est déjà pratiquement impossible. Je pense qu'évolutivement, on est fait pour fonctionner en groupe d'entraide. Donc déjà, y arriver à deux, c'est dur, mais une personne seule, enfin, on est là dans l'urgence permanente, dans l'improvisation permanente. Et il faut dire qu'on n'est pas fait pour ça.
Aurélia Schneider.
Oui, et puis alors, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est-à-dire quand on devient aidant soi-même, de gens qui vont moins bien, de parents qui sont plus âgés. Et ce sont de multiples charges. J'ai un petit peu l'idée que quand on s'occupe des autres, dès qu'on a en charge des autres, la charge mentale est vraiment, vraiment devant la porte. Et déjà dans la maison, en fait.
Jean-Philippe Lachaud, notre cerveau, oui, donc dans tout ça, oui.
Le côté enfant, il y a quand même quelque chose de particulier avec les enfants, c'est que je parlais de ce cortex préfrontal qui est censé, qui nous sert à nous soucier de d'autre chose que l'instant présent immédiat. Il arrive à maturité assez tard, hein, il arrive à maturité en fin d'adolescence. Donc les enfants qu'on a autour de soi ne sont pas équipés de la même machinerie que nous, et bien souvent on se retrouve effectivement, comme disait cette personne, à devoir avoir 5 cerveaux, parce qu'en fait on doit faire office de prothèse de cortex préfrontal pour nos enfants qui sont pas arrivés à maturité. Ceci dit, cette arrivée à maturité, c'est pas du tout rien, c'est pas tout d'un coup à 18 ans on est complètement équipé, c'est progressif. Donc il y a quand même moyen d'essayer de repérer ce qu'un enfant en fonction de son âge est capable de prendre comme charge mentale et comme degré de responsabilité. Et ça, c'est une des solutions, c'est évidemment de responsabiliser au maximum les enfants en fonction de leur âge.
Alors justement, les enfants aussi hein, sont sujets à la charge mentale, Sébastien. Il ne faut pas les oublier dans cette affaire.
Alors, ils sont sujets à une forme de charge mentale qui n'est pas dans le même sens que l'adulte, parce que l'enfant n'a pas, comme vient de le dire Philippe Lachaud, pas tout à fait la capacité d'anticiper autant de choses sur des grandes échelles de temps qu'un adulte. Mais ce que nous disait Béatrice Millettre, qui a étudié le phénomène justement de l'épuisement nerveux plutôt de l'enfant, c'est qu'il subit une forme quand même de charge mentale, de charge nerveuse dans les conditions actuelles à la fois de la famille et de l'école, avec des injonctions paradoxales, par exemple, à l'école. Apparemment, il parle beaucoup d'exigences qui sont placées sur les enfants et qui sont pas forcément satisfaites par les figures d'autorité. Donc l'enfant se dit, comment je dois faire ça, mais je vois que les adultes ne le font pas toujours. Ou alors, il a une bonne note à l'école, et puis on lui dit, mais ça va pas du tout, tu dois faire beaucoup mieux, tu as un fort potentiel. Il comprend pas, il a parmi les meilleures notes de la classe. Et ce serait lié au fait qu'aujourd'hui, dans une classe, il y a effectivement des notes qui vont du 5 au 18, et que comme les élèves ne redoublent plus, en fait, on fait des sous-échelles, des sous-critères. C'est-à-dire, celui qui a 14, on va lui dire, il a un potentiel très élevé, donc ça ne suffit pas. Toi, tu es bon, donc tu dois faire beaucoup mieux. Et la conséquence de ça étant que certains enfants, quoique étant tout à fait au niveau à l'école, se créent eux-mêmes des exigences. Quand ils donnent une bonne réponse dans leur devoir, ils vont s'imaginer qu'elle n'est pas bonne parce qu'ils l'ont pas assez compliqué. Ils commencent à se faire des nœuds dans la tête et se profilent des cas qu'on voit après en consultation qui sont à la limite du burn-out ou de la dépression chez un enfant, ce qui n'est quand même pas peu dire, quoi.
Ça, c'est le piège de la comparaison, justement.
Oui, le piège de la comparaison.
Schneider, qui concerne les petits comme les grands.
Oui, les petits comme les grands. Et la comparaison toxique, c'est-à-dire que si on s'amuse à trop se comparer et à se comparer en bloc, c'est-à-dire, extraire finalement de quelqu'un ce qui nous fait peur parce qu'on n'a pas ça, on en manque. Alors on se dit, lui, il est beaucoup mieux. Et on fait comme ça une généralité, alors que on est tous des mosaïques. Et si on compare des petits morceaux, on va voir qu'il y a des petits morceaux mieux, des petits morceaux moins bien, et qu'en tout cas, c'est surtout des petits morceaux différents. J'insiste beaucoup, c'est différent. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. C'est une association de petites choses qui nous composent. Et la comparaison est un phénomène diabolique.
Et l'hyperparentalité, ça aussi c'est un phénomène qui rejoint ce qu'on est en train de se dire. Oui, vous citez Bruno Imbeck, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce sujet.
Oui, bien sûr, mais parce que je pense qu'il a absolument raison. C'est-à-dire que l'important, c'est aussi, à certains moments de la vie, on est obligé, quand les enfants sont tout petits, de réduire leur autonomie, puisque si on les laissait trop autonomes, les petits-enfants, ils seraient très angoissés d'être trop autonomes. Mais il faut les surveiller, il faut les guider. Mais quand ils grandissent, il faut laisser du temps, laisser de la place pour qu'ils soient, eux, autonomes, qu'ils rentrent un petit peu seuls de l'école, qu'on ne soit pas constamment à les téléguider avec des portables. Justement, il faut savoir si tout est en ordre, s'ils sont rentrés à l'heure. On peut laisser un peu de jeu quand ils grandissent.
Sébastien. Et puis, il y a le phénomène des enfants surbookés. Des enfants qui ont des emplois du temps de ministre, ça commence à le voir.
Absolument.
Je connais le cas d'un enfant qui devait, d'une psychiatre en fait, qui devait recevoir un enfant en consultation et les parents disaient, on ne sait pas quand, là il a ça, là il a ça, il n'avait pas de créneau pour...
Alors, c'est tout à fait vrai, j'avais donc pour le bouquin interviewé Nicole Guédenet qui s'occupe de l'Institut Mutualiste Montsouris et elle m'avait expliqué que certains enfants avaient jusqu'à plus de 60 heures d'activité par semaine. Et elle disait, l'OMS prévoit 48 heures d'activité pour l'adulte, au-delà desquelles c'est trop, on est en suractivité, 48 heures.
Toute activité confondue.
Et certains enfants, entre le moment où ils partent à l'école et le moment où ils rentrent, avec leurs activités, les extrascolaires, les ateliers, tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus de 60 heures.
Ils sont surbookés, effectivement, et on parle de la surcharge mentale des adultes comme des enfants cet après-midi dans La Tête au Carré. Sur l'Eritani Tsuku avec Marcia Baila.
La tête au carré. Sur France Inter.
Bah, écoute, Babou, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise?
Bah, je sais pas, moi. Tu pourrais, par exemple, reconnaître que j'ai quand même sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'avais du temps, hein. Et bah, tiens, parlons-en des enfants. Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si, je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend, là. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu les énerves bien en faisant le fou, là. Juste avant qu'ils aillent se coucher. Et après, tu me les laisses sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis, les cauchemars. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, quand même, faut pas déconner. Les chiards, ça va 5 minutes. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de lire, une fois de temps en temps. Eh ben non, elle peut pas, Babou. Ben non, elle a pas le temps, Babounette. Et puis à quoi ça me servirait? Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune, et toutes les quatre, on va aller se coucher. Pierre, si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours.
Voilà, le pétage de plan de Babounette hein, dans le film Le Prénom. Valérie Benguigui, excellente dans cette scène pour parler de notre sujet sur la charge mentale. Est-ce que c'est pas ça aussi, de temps en temps, qui est un petit peu nécessaire? C'est de péter les plombs, précisément, en famille, là, pour leur faire comprendre un peu qu'il y en a marre?
Oui, bah, il faut s'exprimer. Moi, je pense que c'est important d'exprimer ses émotions. La colère n'est pas... au contraire, c'est une bonne émotion à certains moments. C'est une
la révolte
utile,
de la mère de famille, Sébastien.
Il faut arriver à se faire entendre. Oui, c'est sûr. Je sais pas si ça suffit. En fait, mais certainement que parfois il faut.
Donc, à court terme, ça peut être intéressant. Le problème, c'est plutôt à moyen et long terme. Ce qu'on vise dans une maison et dans une famille et dans un couple, c'est le moyen et le long terme. Donc, péter un plomb à un moment parce qu'on n'en peut plus, ça paraît sain et il faut que ça sorte, on va dire. Mais après, comment organiser pour plus tard, pour même dans pas très longtemps et de façon pérenne, ce soit différent.
Allez, 2 témoignages encore avant de revenir sur notre cerveau. Morgane nous dit « Je trouve cliché de dire que les femmes veulent absolument une maison rutilante. J'ai autour de moi plein de femmes actives, créatives, éduquées, avec plus ou moins d'enfants. Et l'ordre et le ménage de la maison n'est vraiment pas dans leurs préoccupations principales. »
Tant mieux.
On peut le dire. Rémi nous dit « Je suis en arrêt maladie et de ce fait avec un demi-salaire. Je suis en instance de divorce. J'ai des crises d'angoisse. Les prélèvements mensuels excèdent mes revenus. Je passe ma vie à remplir des dossiers, à attendre des réponses. Est-ce la charge mentale? Mon rayon de soleil, c'est mon fils de 9 ans que j'en garde alterné. »
Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est la charge mentale, c'est aussi la responsabilité, la lourdeur, le fait de devoir penser à ce qui va se passer si on n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Dans les patients, moi, que je vois souvent des gens qui sont en profession libérale ou qui sont responsables dans des entreprises. Et quand ça va mal, quand il y a des périodes difficiles... Eh bien, c'est très chargé. Hein. Quand on rentre à la maison, on transporte avec soi toutes les inquiétudes qu'on a dans son boulot et toutes les inquiétudes qui nous hantent.
Oui, et le rayon de soleil, ça peut être aussi de mettre de côté par moment, d'avoir au moins quelques moments dans la journée où on pense plus à toutes ces choses qui nous polluent l'esprit.
Mais ça, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile, mais on sait quand même ce qui marche. C'est ce que les psychologues appellent le flux, hein, la sensation de flux. C'est les activités dans lesquelles on s'immerge, dans laquelle on trouve un sens, dans laquelle on est à 100% de son rendement et de sa conscience et de sa concentration. Et on est vraiment heureux et pleinement dans l'instant présent sans être pollué par des instants futurs, passés, parallèles. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver soit dans son domaine professionnel quand on excelle ou quand on a des défis qui sont à la hauteur de nos compétences, soit dans des passions, des hobbies, des choses qui nous font vraiment rentrer dans un état second que connaissent les artistes, par exemple.
Jean-Philippe Lachaud, la promesse de ce dossier de cerveau et psycho, c'est d'alléger justement la charge mentale grâce aux découvertes des neurosciences. Alors qu'est-ce qu'on a découvert justement de fondamental par rapport à notre thème là aujourd'hui?
Bonne question, vaste question. Est-ce que les neurosciences peuvent vraiment nous donner des solutions définitives à ce genre de problème? On va peut-être laisser mûrir un peu. Mais en tout cas, il y a un thème et un terme qui est central qui est sous-jacent à la charge mentale, c'est la notion de conflit. Parce que finalement, de conflit interne. Quand on est en situation de charge mentale, on s'engage dans une activité, mais on ne devrait pas forcément s'y engager. On devrait aussi faire autre chose. Il ne faut pas oublier cela. Donc, on ne peut jamais s'autoriser pleinement à être dans ce qu'on fait. Mmh. Donc, ce conflit, ce qu'on sait, c'est que ça va effectivement générer... Ça va créer de la compétition entre des réseaux dans le cerveau. Première chose, donc avec une perte d'énergie, puisque quand vous avez des réseaux qui s'auto-inhibent mutuellement, il y a forcément sensation de fatigue. Mmh. Ça va créer de la tension qui va devenir même corporelle, avec des régions comme l'insula qui couple vraiment le fonctionnement cognitif avec le fonctionnement du corps. Donc s'il y a bien une leçon à retenir, c'est que il faut rechercher absolument les situations qui minimisent les conflits internes, les conflits cognitifs, et donc des situations où on peut être complètement effectivement dans ce qu'on fait. Et ça rejoint cette idée de flow. Quand vous êtes l'exemple, voilà, la tarte à la crème, c'est la partie de golf où les gens diront, bah oui, mais quand je joue au golf, je suis complètement dans ce que je fais, j'oublie le reste. Mm-hmm. C'est l'exemple même du hobby où on s'autorise ponctuellement à être totalement dans ce qu'on fait et on se crée une bulle. Où justement ces autres choses qu'on a à faire, toutes ces autres dimensions de la vie n'ont plus prise. C'est effectivement ça qu'il faut arriver à rechercher.
Jean-Philippe Lachaud, vous rappelez quand même quelque chose d'essentiel par rapport à notre discussion là dans Cerveau et Psycho, c'est que le cerveau justement n'est pas multitâche. Ça, c'est une réalité de notre constitution ?
Alors, il n'est pas multitâche. Il est multitâche dans le sens où on peut siffler en faisant du vélo. Quand les actions qui sont très automatisées, on arrive à les mener de front. Mmh. Mais effectivement, des tâches qui demandent de la concentration, qui demandent d'aller rechercher des souvenirs. Par exemple, si je dois organiser un voyage en train pour mes enfants et qu'en même temps, j'ai l'un des enfants qui me pose des questions, je dois être à la fois... dans cette simulation mentale où je dois me créer un petit univers, le train, qu'est-ce qu'il faut, comment ça va se passer, etc. Donc, je dois me détacher du réel. Et en même temps, je dois être dans une interaction avec l'enfant, au contact justement avec le réel. Et ça, c'est exactement le genre de situation qui va créer du conflit, puisqu'on a des zones, ces zones qui créent cette simulation mentale doivent en principe s'inactiver pour interagir avec quelqu'un. Donc, on crée du conflit, on crée de la fatigue, on crée du stress. C'est pas bon. Et c'est pas possible.
Conflit cognitif, hein, Sébastien Boller.
Oui, c'est ce que termes employés. Hein. Voilà ce que nous explique Jean-Philippe Lachaud dans cet article. Il explique effectivement que comme ça peut pas se faire simultanément, on n'arrête pas de basculer, en fait, d'une situation d'interaction à une situation de projection mentale, que ça peut pas se faire à la vitesse de la lumière, hein. Il faut à chaque fois quelques secondes de bascule.
C'est ça.
C'est de la perte de temps, c'est du conflit, effectivement, c'est de la fatigue. Et à l'arrivée, des interruptions qui, on le sait, nuisent à l'efficacité finale aussi, hein.
L'exemple des étudiants et des enseignants, Jean-Philippe Lachaud, hein, il y a cet exemple, cet enseignant qui doit mener son cours tout en répondant aux élèves, sans perdre de vue l'organisation globale de l'heure, autant d'ingrédients pour une bonne surcharge mentale.
Oui, absolument. C'est cette enseignante de mathématiques en collège, Anne, qui j'avais observé du fond de la classe, comment elle manipulait, quelle était sa charge mentale et attentionnelle pendant son cours. Mmh. Et je trouvais que c'est un exemple vraiment très spectaculaire, au moins de multitâches, mais de multitâches bien menées. Elle doit surveiller et maintenir dans une zone de confort, on va dire, pas mal de choses. Donc vérifier que la classe est bien homogène au niveau de la compréhension. Donc elle doit avoir cette connexion permanente avec la classe. En même temps, elle doit anticiper ce qu'elle va dire. Elle devait aller chercher du matériel sur Internet pour l'exercice d'après. Donc elle doit sans arrêt basculer entre ces différentes tâches. Mais il n'y a jamais de conflit parce que c'est elle qui décide du moment où elle va basculer. Et elle minimise les conflits de cette façon-là, mais ça demande énormément de métier.
Jean-Philippe Lachaud, une autre question de Nathalie à laquelle vous allez peut-être pouvoir répondre. Veuve et mère de deux enfants handicapés, j'ai beaucoup souffert, dit-elle, de la charge mentale ces dernières années. Aujourd'hui, je me pose une question, cette charge mentale a-t-elle entraîné des lésions cérébrales? Car j'ai vraiment l'impression que mes performances intellectuelles diminuent rapidement. J'ai 55 ans, nous dit Nathalie dans ce témoignage.
J'ai pas de réponse et je pense que quiconque, enfin personne en neurosciences n'aurait de réponse à cette question. Vous savez qu'il y a eu des travaux sur la maladie d'Alzheimer qui montrent qu'au contraire, le fait d'être très actif comme ça intellectuellement peut éventuellement retarder certaines pathologies. Il faut regarder du côté de la fatigue. Quand on est épuisé, forcément, on fonctionne moins bien cognitivement, mais ça, c'est réversible.
Mm-hmm. C'est réversible.
C'est pas vraiment de oui, le repos va ramener
absolument. Aurélia Schneider.
Oui, c'est-à-dire que ce que l'on sait, notamment quand il y a une dépression, c'est qu'il y a des modifications au niveau neuronal, mais que dès lors que la dépression est guérie, les neurones ont retrouvé leur forme. Il y a une plasticité neuronale qui permet de récupérer et bien sûr de retrouver ses qualités anatomiques précédentes.
Jean-Philippe Lachaud, vous confirmez évidemment.
Oui.
Hein.
Oui, absolument. L'effet du stress aussi, le stress chronique peut avoir un effet cognitif, mais à chaque fois, il s'agit toujours de choses réversibles.
Mmh. Sébastien, pour terminer, encore quelques pistes à nous donner pour essayer de combattre cette charge mentale.
Oui, ce qui ressort du dossier un petit peu qu'on a monté, c'est parfois la difficulté qu'ont les gens en situation de charge mentale à bien discerner ce qui constitue les piliers de leur vie. Mmh. C'est-à-dire que toutes les tâches ne sont pas du même registre. Vous avez des tâches d'ordre familial, des tâches d'ordre sentimental, si on peut parler de tâches sentimentales, mais oui, mmh. aussi professionnelles, de loisirs. Et pour tous ces domaines-là, il y a toujours des choses à planifier, à prévoir. Et dans le tohu-bohu quotidien, on ne fait pas forcément le tri. Et il semblerait qu'à partir du moment où on essaie de regrouper comme ça chacun de nos actes mentaux en grands piliers de vie, mmh. on essaie d'avoir une vision de notre vie comme ça, on peut compter 7, 8, 9 piliers peut-être qui sont mentionnés dans l'article, on devient capable de se dire est-ce que là j'ai négligé un aspect par rapport à un autre ? Parce qu'il semblerait que la surcharge mentale devienne insupportable quand on néglige trop certains piliers de notre vie en passant trop de temps à essayer de tout résoudre dans un domaine.
Merci beaucoup à tous les trois et merci aux nombreux témoignages arrivés sur le site de la Tête au Carré. Voilà, c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Thierry Dupin qui signait la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, bien sûr, juste après les infos, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bon après-midi, à demain.